comment dire, depuis 60 ans, en fait, la conquête de l'espace est au cœur des intentions de tous les grands pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez les Américains, les Russes, les Chinois, mais pendant très longtemps, la France a été en pôle position sur le sujet. Et ben, en fait, on n'est pas loin de Star Wars, on n'est pas si loin de Star Wars. Et c'est vrai que dans l'espace, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser des armes. Mais par exemple, si je te frôle ton satellite, ça va le désorbiter et du coup, c'est terminé. C'est une technologie qui est à la portée de quelqu'un d'entreprenant et d'ingénieux. Et donc, c'est quelque chose qui est à encadrer.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derverian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après un passage par Sciences Po, HEC et en débutant sa vie professionnelle à Matignon, il co-anime un cabinet d'affaires politiques et industrielles avant de rejoindre le ministère des Armées en tant que conseiller à la Défense. Il est également colonel de réserve dans l'armée de l'air et de l'espace, animateur de plusieurs groupes de travail dans le spatial pour le ministère des Armées et surtout vice-président de Latitude, un constructeur de lanceurs légers français Zephyr. Salut Vincent, comment vas-tu ?
Salut, super, impeccable. Merci à vous de cette invitation.
On est hyper content de t'accueillir à notre micro. En plus, ce spatial, c'est un de nos sujets préférés. Bon, faut que je fasse attention parce
complètement.
Que on a beaucoup de sujets préférés.
Quand même.
Mais c'est un super sujet. Latitude, on fait que de m'en parler. Je sais toujours pas ce que vous faites. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce que vous faites?
Ah, Latitude, c'est très simple. Latitude, on fabrique des fusées. Alors, on est dans un studio qui est bleu. C'est l'espace, les fusées, c'est ce qui emmène des satellites dans l'espace.
Ok.
Voilà. Donc, on sera 200 collaborateurs au mois de septembre à Reims, ainsi que sur la plateforme aéronautique de Vatry. Et donc, on est la firme de lanceurs, de mini-lanceurs, de fusées, c'est-à-dire des fusées qui font 20 tonnes 20 mètres en France, en pole position.
Vous en avez déjà envoyé dans l'espace ou pas encore?
Alors, les programmes de fabrication de fusées, ce sont des programmes. Il faut un certain temps avant d'arriver jusqu'au lancement. Le lancement est prévu pour fin 2025.
Okay. Ça, et vous existez depuis?
On existe depuis 2 ans et demi. Donc, on est super speed, en fait.
Vous êtes très, très
voilà,
speed.
Voilà.
C'est vrai. On aura l'occasion de revenir un peu dessus, parce que construire une fusée, tu nous disais un peu avant qu'on enregistre, mais ça se fait pas en claquant des doigts. C'est très technique, très complexe. Ça prend du temps.
Voilà, une fusée, il faut beaucoup d'ingénieurs. Une fusée, c'est essentiellement des moteurs, un moteur, une technologie extraordinaire. Et c'est vrai que en France, depuis les débuts du spatial, on a une grande spécialité, c'est la fabrication des fusées. C'est le spatial depuis De Gaulle, depuis le CNES. Et donc, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que jadis, les fusées étaient d'une très grande capacité. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés dans le monde se mettent à faire des mini-lanceurs. On va en parler plus tard, mais on rentre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que jadis, c'était des États. Aujourd'hui, ce sont des sociétés commerciales et c'est la capacité pour des jeunes ingénieurs comme vous, à un moment donné, de se lancer dans une aventure et de fabriquer des satellites, des fusées. C'est ce qu'on appelle le New Space.
Justement, tu me fais une transition toute faite. Qu'est-ce que c'est le New Space? Parce que là, moi, j'ai découvert ce mot-ci il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va faire 2-3 mois. Avant, on parlait de conquête spatiale. D'ailleurs, je crois que c'est la même chose.
Alors, on va... voilà, je crois que c'est notre sujet aujourd'hui. Hein, c'est
ouais, on a le
conquête
temps.
Spatiale, New Space. On va dire que... Il a fallu un certain temps, depuis 60 ans, en fait, la conquête de l'espace est au cœur des intentions de tous les grands pays. D'abord parce qu'il a fallu une technologie qui puisse le permettre, donc il fallait être assez puissant technologiquement pour se lancer dans cette course à l'espace. Et là, on comprend que au tout début, ce sont des États, des grands pays qui vont se lancer, mais je vais vous expliquer pourquoi et comment. Voilà.
Avec grand plaisir. Mais du coup, le New Space, c'est cette conquête spatiale sans le mot conquête pour pas que ça fasse trop guerre, c'est quoi?
Alors, le New Space, c'est précisément le fait qu'à un moment donné, des jeunes ingénieurs ont été suffisamment malins, véloces et ingénieux pour se lancer eux-mêmes. Et c'est le désir de faire en sorte que l'espace soit accessible au plus grand nombre.
D'accord.
J'ai dit, c'était des grosses opérations, on va dire, gouvernementales, militaires. Et puis, à un moment donné, mais je vais vous expliquer pourquoi, ce sont des firmes, des acteurs économiques, des acteurs commerciaux qui se sont lancés de toutes les tailles. On trouve des startups, on trouve des plus grands groupes. Et c'est ça qui caractérise le New Space.
Donc, on s'affranchit des institutions classiques, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'on développe des marchés, on développe des potentialités, on croit, on a une espérance nouvelle. C'est plus simplement des positions d'acteurs gouvernementaux. C'est aujourd'hui une nouvelle aventure économique avec des nouveaux marchés, des nouvelles potentialités et des nouvelles découvertes de ce qu'est la Terre et de ses potentialités. Alors, on est toujours frappé, par exemple, de voir que dans les jeunes générations, on se dit « Ah oui, mais l'espace, c'est des fusées, ça pue, ça pollue. » Alors, oui et non, mais surtout, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur Terre et d'être, peut-être plus fin, plus rationnel, d'avoir des nouvelles découvertes qui vont, qui sont dans la courbe de l'humanité, le progrès de l'humanité passe par là, en fait. Donc, c'est très important.
Et pourquoi on va dans l'espace ?
Alors, je vais peut-être vous redire un peu ce qui s'est passé.
Ouais, je pense
et
que c'est important.
Voilà, le début.
Mais pourquoi on a voulu aller dans l'espace, justement ?
Voilà, c'est ça.
C'est plus ça, si tu veux, ma question. Voilà. Ouais.
Alors, le sujet, c'est que, en fait, après, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tu avais deux grands acteurs, les Américains, qui ont quand même libéré l'Europe, et les Russes. Qui ont eux-mêmes revendiqué le fait d'avoir participé à cette fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, deux façons de voir les choses. À un moment donné, ces deux façons, on n'a plus voulu de la guerre. La guerre est une chose atroce, terrible pour tout le monde. Et donc, pour ne plus se faire la guerre, mais en même temps pour défendre l'idéologie qui avait prévalu, d'un côté des gens plus libéraux et de l'autre côté des gens plus, organisés, on appelait ça le communisme, eh bien, on s'est mis à s'affronter par concept et notamment en ayant une vision de l'espace, c'est-à-dire que on ne s'affronte plus matériellement, on s'affronte idéologiquement et en démontrant sa puissance. Alors c'est une forme d'orgueil des nations, mais globalement c'est une confrontation entre deux géants et c'est ça qui a généré le début de la conquête spatiale. Alors on retrouve ça dans les discours de Truman, de Jdanov, et cette guerre idéologique devient le terrain d'expression de cet affrontement idéologique. Je vais peut-être vous citer quelques dates, en fait. C'est peut-être ça.
Ouais,
une petite chronologie, en fait. Ça me paraît très important.
Voir où on en est un peu.
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Russes qui sont les premiers à marquer des points. Alors, en 1957, tu as le premier exploit spatial mondial, qui est fait par des Soviétiques. Ils envoient une fusée R-7. Et ils envoient ce qu'on appelle le Spoutnik, qui est, donc tout le monde connaît Spoutnik. Spoutnik, en russe, ça veut dire compagnon de voyage. Alors, en fait, à cette époque, on ne manquait pas d'humour. C'est-à-dire qu'on peut se défier avec de l'humour et avec de la technologie. Alors, je sais pas si c'est de l'humour ou de l'ironie, mais globalement, c'est de la défiance. Donc, Spoutnik est lancé en 57. Il tourne autour de la Terre à 900 kilomètres. Et il est tiré à partir de Baïkonour. Et puis, un ou deux ans plus tard, les Russes, toujours, envoient Spoutnik 2. Et dans ce Spoutnik 2, on met un chien, une chienne qui s'appelle Laïka. Et donc, c'est pour dire, voyez, nous, on est capable de faire des choses que personne d'autre ne fait. Voilà. Alors, les Américains, ils sont béats et ils se disent, mais il faut absolument réagir. Et donc, la réaction se fait tout de suite attendre. En 1958, les USA lancent leur premier satellite qui s'appelle Explorer 1. Et tout de suite après, Eisenhower signe le décret de création de la NASA. NASA, ça veut dire National Aeronautics and Space Administration. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment dans du lourd, dans du programme, et cette défiance, qui est au début une défiance idéologique, va devenir une défiance matérielle, physique, technologique. Voilà.
Mais aujourd'hui, finalement, ça c'était déjà, c'était il y a quelques années, il y a quoi, il y a 50 ans, un peu plus. Ouais. Depuis, la technologie s'est améliorée, on a justement développé ces micro-lanceurs dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour de démontrer sa puissance en allant dans l'espace ?
Alors, l'histoire se répète, en fait. Hein, on n'est pas là pour faire de la philosophie, mais l'histoire se répète. Et alors, donc, on a vu ces premières interventions, ces premiers duels entre les Russes et les Américains. Tout de suite après, tu as Kennedy, en 1962, qui lance le programme lunaire. Et puis, au même moment, t'as Yuri Gagarin, qui est le premier homme dans l'espace. Les Américains répliquent, mais avec un peu de retard, notamment avec Apollo 2, et ce sera Neil Armstrong et Edwin Aldrin qui vont mettre les premiers pas sur la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cycle-là, entre les années 60 et les années 70-80, est en train de se répéter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'on ne va plus sur la Lune depuis un certain temps, on va dire pourquoi. Aujourd'hui, les nations se posent la question de qui va être le premier sur la Lune. Et je ne veux pas vous délivrer un scoop, mais les premiers à remettre les pieds sur la Lune, ce seront les Chinois. Et donc, on voit bien que cet affrontement, ce duel est en train de s'élargir. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais l'espace est en train de devenir un lieu de conflictualité et de démonstration de sa puissance.
C'est une question de souveraineté.
Voilà, une question de souveraineté. Alors, les nations intelligentes ne veulent plus faire la guerre parce que c'est terrifiant. On voit bien que dans le conflit russo-ukrainien, on est encore sur des concepts anciens, de guerre de tranchées, ça fait beaucoup de morts, c'est une catastrophe. Et ceux qui ne veulent pas se lancer dans ces aventures se lancent dans des aventures technologiques. Alors c'est un démonstrateur de guerre et de puissance, mais globalement, l'idée pour ces grandes nations, c'est d'affirmer leur puissance. Et l'espace devient un lieu de conflictualité, c'est-à-dire un lieu où on va se faire la guerre, mais de façon plus mécanique, plus électronique, à distance.
C'est vrai qu'un des concepts, des nouvelles qui m'avait le plus marqué, c'est justement le fait d'avoir renommé l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace. Et c'est vrai que même la création d'un service, il me semble, une Space Force aux États-Unis, ça s'inscrit dans cette logique-là.
Alors ça s'inscrit totalement dans cette logique-là. C'est-à-dire que aux États-Unis, en fait, tu as un double mouvement, c'est-à-dire que il y a une montée en puissance des acteurs technologiques. Il y a une montée en puissance. En fait, il faut juste comprendre qu'à un moment donné, vous avez eu ce qu'on appelait les vols habités avec la navette Challenger. Et puis, il y a eu un accident où tous les astronautes de la navette ont péri. Et du coup, une prise de conscience que tout ça était quand même très dangereux et que le sujet n'était pas de risquer la vie des humains pour aller sur des programmes lunaires. Et donc les Américains se sont retirés, ont un peu baissé la garde sur le sujet, mais ne se sont pas aperçus, ou ils n'ont pas voulu prendre conscience que les Chinois, eux, en même temps, se sont mis à développer des programmes. Et le Chinois, a une vision des choses qui est très programme, c'est-à-dire que il planifie et il exécute ce qu'il planifie. En Europe, on fait des programmes, mais on peut être un peu plus inconstant dans la réalisation de ces programmes parce qu'il y a des questions budgétaires, parce qu'il y a des questions sociétales. En Chine, on décide quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Hein. Je veux dire, en URSS, c'était la même chose. Et donc, on sait que les Chinois seront sur la Lune dans 10 ans parce qu'ils sont en train de dérouler un programme. Et donc, pour répondre à ça, les Américains se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait doubler dans la course à l'espace. Et donc, ils ont fait naturellement appel au secteur des acteurs commerciaux en disant, messieurs les acteurs commerciaux, on va vous transférer des subventions, on va vous financer des programmes, mais s'il vous plaît, allez plus vite que ce que nous on est capable de faire. Et je crois que c'est ça en fait, le New Space c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est les Américains qui prennent conscience qu'ils sont en retard, et pour accélérer ce retard, il ne faut plus passer par une administration, il faut passer par des entreprises privées, par des start-up, par des gens qui vont accélérer le mouvement pour rattraper le retard sur les Chinois. C'est un peu tout ça.
Et là, on parle des Chinois, on parle des Américains, l'Europe dans tout ça.
Alors, l'Europe, on va y venir. Mais je voulais juste vous dire que donc la Chine s'est lancée dans cette aventure dans les années 80. Elle a créé sa première agence spatiale. Il y a eu un premier ministère de l'industrie spatiale en Chine. Et puis, le premier vol habité date de 2003 dans une capsule qui s'appelle le Chengdu 5. Ensuite, les fameux programmes dont je vous ai parlé, eux, se nomment Chang'e, pour être un peu à l'européenne. Et ces programmes sont en train de se dérouler. Et l'objectif du Chinois, c'est d'avoir le premier homme asiatique sur la Lune avant 10 ans. Donc on voit bien qu'on est dans une performance, entre guillemets, d'acteur, et l'idée c'est vraiment de démontrer à l'Amérique que l'Amérique n'est peut-être has-been et qu'elle n'est plus la première puissance mondiale. Donc je vous ai décrit tout ça, alors vous avez aussi l'Inde qui dès les années 60 a monté des programmes avec l'URSS, mais a connu des échecs dans ses lanceurs et donc a eu des programmes plus modestes, même s'il est aujourd'hui en train de revenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez les Américains, les Russes, les Chinois, mais pendant très longtemps, la France a été en pole position sur le sujet. Alors ça, c'est très très intéressant parce que...
Pendant très longtemps, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus.
Alors, aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais, okay. Mais elle a été en pole position. Et alors, en fait, on doit tout ça au général de Gaulle. De Gaulle, comme vous le savez, était pour le non-alignement, c'est-à-dire qu'on ne s'aligne ni derrière les Russes, ni derrière les Américains. En termes de stratégie politique, son sujet, c'est souveraineté de la France, indépendance, autonomie, qui passe par une autonomie technologique. Donc on a ce qu'on a en France, on appelle ça la dissuasion nucléaire. On a des programmes plus tard qui arriveront en matière d'énergie sur le nucléaire. Et le spatial est une façon d'affirmer sa technologie, son autonomie et la grandeur de la France. Alors en plus, De Gaulle ne mâchait pas ses mots, c'est-à-dire que lui voyait une façon d'emmerder, et il le dit, les Russes et les Américains. Donc, vous voyez, là aussi, on est dans... c'est pas de l'humour politique, c'est vraiment un positionnement qui est de dire on existe, nous les Français, et on va vous montrer ce qu'on est capable de faire. On va pas être dépendant ni du plan Marshall, ni des programmes communistes, quoi. Donc, voilà. Alors, De Gaulle crée en 1961 le CNES. Le CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, qui est une structure qui est chargée de centraliser l'ensemble des activités françaises liées à la conquête de l'espace. Et l'objectif, c'est de faire de la France une puissance spatiale. Alors, je reviens un peu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle le programme V2, notamment en Allemagne. Vous savez, ces espèces d'avions missiles qui étaient tirés sur des rampes de lancement. Et à la fin de la guerre, en fait, vous aviez en Allemagne beaucoup d'ingénieurs qui travaillaient sur ces programmes spatiaux. Donc là, la fin de la guerre est proclamée, et ces programmes sont arrêtés, mais ces ingénieurs, qui étaient des ingénieurs qui n'étaient pas forcément, qui ne partageaient pas les idées du nazisme, vont pour partie émigrer aux États-Unis. Et également émigrer en France, dans le sud de la France, mais également dans la région parisienne et particulièrement sur Vernon.
Ouais.
D'accord. Vous savez que Vernon est un des grands sièges de Ariane Group. Et plus tard, on va créer une première fusée qui s'appellera Véronique, qui est une fusée démonstrateur. Et Véronique, ça veut dire Vernon électronique. Okay. Donc, en fait, le tout début de l'aventure, c'est la fin de la guerre, c'est l'interdiction pour les Allemands d'aller dans l'aéronautique, d'aller dans le spatial, et les vainqueurs vont pouvoir, eux, déployer des programmes aéronautiques et spatiaux. Hein. C'est ce qui a donné naissance à la maison Dassault, c'est ce qui a donné naissance à tout ce qui va devenir Ariane Group. C'est pas une victoire de guerre, mais c'est une conséquence directe de la fin de la guerre et de la capacité de la France à être technologique sur ces sujets. Alors, je vous ai parlé de Véronique. Cette première fusée est une fusée militaire qui est créée en 1954. Et on a cité tout à l'heure le choc mondial qui était le lancement du Spoutnik en 57. Vous voyez que 54-57, on n'est pas à la ramasse sur le sujet. On est vraiment
on est
dans la compétition, on est dans la course. Et donc ce sont des militaires, notamment dans les années 58, le général Guérin, qui va créer en France un haut commissariat à l'espace. Alors, la conquête spatiale, ça passe aussi par une organisation. Donc, il faut des leaders, il faut des gens qui décident, il faut des moyens financiers. Vous avez la NASA aux États-Unis et nous, on a quelque chose qui est un début d'agence spatiale et qui va devenir en 61 le CNES. Et le CNES est une organisation qui doit réunir des acteurs civils et des acteurs militaires. Et donc, on a le général Aubrière qui va prendre le lead sur le CNES et qui va obtenir des moyens financiers pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et donc, on va avoir en novembre 65, la France va placer sur orbite son premier satellite. Et ce satellite s'appelle Astérix. Voilà, on a fait avec l'armée de l'air et les armées européennes et même américaines, il y a quelques mois à Toulouse, un exercice Astérix. C'est en fait se remémorer que en 65, on avait été parmi les premiers à lancer et 65 marque la puissance spatiale de la France comme troisième acteur mondial. Ce qui est quand même quelque chose de très très important, voilà.
Mais ça fait une très belle rétrospection.
Rétrospective.
Voilà. Et aujourd'hui, la France, elle est encore dans la partie ou pas?
Alors, c'est très important de comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui est en train de se passer. On vit une époque absolument formidable. Vous avez en France de très très bonnes écoles d'ingénieurs. On a Supaéro, on a l'Estaca, les écoles des mines ont des programmes spatiaux. En France, on forme chaque année à peu près 2000 étudiants qui vont devenir les futurs ingénieurs du spatial. Et le spatial en France est quelque chose de considérable. Vous avez de très très nombreuses start-up dans l'informatique, dans les satellites, dans les applications, dans les lanceurs.
Et ça donc, représente à peu près combien de start-up et combien d'emplois, tu sais ou pas?
Alors oui, là vraiment, le secteur spatial en France, c'est à peu près 30 000 emplois.
Okay. Oui.
C'est quand même quelque chose de très très conséquent et c'est quelque chose que les pouvoirs publics regardent avec grande attention parce qu'il s'agit de soutenir cette demande. Et voilà. Alors, je pense que le CNES, en France, c'est à peu près 2500 personnes. Okay. C'est quand même une entreprise considérable. Alors, c'est une entreprise, c'est public, et c'est bourré de chercheurs et de gens très intelligents. Alors, on a des points forts. Par exemple, le CNES, la France est renommée pour... c'est technique, hein. Ses études sur les ondes, sur la physique de l'atmosphère, sur l'astronomie solaire, sur les champs magnétiques, sur les télécommunications, sur la télédétection des ressources naturelles, sur la construction des fusées, sur le vol habité. Alors, voilà, Claudie Agnoret, que vous connaissez toutes, hein, c'est cette grande astronaute française, a été médecin, a été physicienne, elle a fait très nombreuses années d'études. Elle a passé quasiment 10 ans avec les spationautes russes. Et donc, elle a été la dernière française dans la station spatiale à faire partie d'un vol habité jusqu'en 2000 ans. Et donc, voilà, il y a eu vraiment cette période, cette grande, grande période de, on va dire, de souveraineté technologique française. Et puis après, on s'est un peu désintéressé du spatial parce que on avait une magnifique fusée qui s'appelle Ariane 5, qui fonctionnait très bien. Et donc, on était sur des programmes commerciaux. Les Américains ne s'étaient pas encore réveillés. Et donc, il y a eu une petite période de transition là sur cette période 2000-2010.
En 2010, ça réaccélère ?
Alors, en 2010, ça réaccélère. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce sont les équilibres mondiaux entre les grands acteurs. Donc, je vais vous citer quelques grands acteurs, vous allez mieux comprendre. Tout le monde a entendu parler de SpaceX.
Ouais. Ouais.
Hein, SpaceX, c'est Elon Musk, c'est Tesla, c'est le génie de l'informatique, du digital qui rentre dans la technologie. Et puis en France, on a Ariane Group, donc qui est une création française, qui est copilotée par Airbus et par Safran comme actionnaire, et qui a une particularité, c'est qu'elle s'occupe de tout ce qui est la dissuasion militaire française, parce qu'elle est aussi fabricant du missile M51. Donc ce sont deux grands acteurs. Et alors, on a souvent tendance à dire, mais il y a SpaceX. Oui, mais il y a Ariane Group aussi en France. Et c'est ce qui fait qu'on est encore...
Ils jouent dans la même cour. Vraiment ?
Ils jouent dans la même cour. Alors,
parce que moi, SpaceX, pour moi, c'est ceux qui... en fait, ils ont fait plein d'innovations. Et c'est ceux qui sont allés le plus vite et qui ont le plus innové dans ce secteur-ci. Et Ariane, je n'entends jamais parler.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que en fait, quand on regarde de façon précise, ce sont deux groupes qui sont assez proches l'un de l'autre. À peu près, chez SpaceX, tu as à peu près 8000 personnes. Chez Ariane Group, tu as à peu près 8000 personnes.
OK. En termes de chiffre d'affaires.
Alors, en termes d'affaires,
le chiffre d'affaires en fait n'est pas forcément le bon critère parce que
c'est très français de dire que les subventions sont le bon critère.
Parce que en fait, SpaceX vend à perte.
Ouais.
Vend pas cher parce que veut rentrer sur le marché et donc fait relativement peu de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires doit être à peu près de 1,5 milliard alors que Ariane c'est plutôt 2,4 milliards.
Ok.
Simplement, depuis 10 ans, tu as des grands programmes avec des subventions très importantes. Alors tout ça n'est pas forcément comptabilisé dans le chiffre d'affaires, mais globalement, on peut considérer que SpaceX a consommé 33 milliards de programmes et de subventions. Et du côté d'Ariane Group, on est plutôt à 40-45 milliards. Donc, on est vraiment sur des compétiteurs, comment dire, voilà. Sauf que SpaceX, c'est à l'américaine, c'est-à-dire qu'on fait des prix bas, on attaque le marché, et ça se traduit simplement par le fait que une fusée Falcon, si tu veux lancer tes satellites, ça va te coûter un lancement 61 millions de dollars, et une fusée française ou européenne, hein, puisque Ariane, c'est aussi les amis allemands, italiens et autres, ça va te coûter le double, quasiment 92 millions.
Oui, mais sur une compétition qui est internationale.
Et bah, non, mais là, tu comprends que... Mais non, mais tu comprends. Je veux dire, un rapport de 1 à 2, tu comprends qu'on est plus compétitif. Et donc, il y a un problème. Et donc, aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que on parlait de l'accès à l'espace, le spatial... Ça se vend comme les carottes et les tomates au kilogramme. L'Américain dit, bah, moi, je lance à 2500 dollars le kilo. Et donc, si tu ne t'alignes pas, tu n'as aucune chance.
Totalement d'accord.
Et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. C'est juste ça. Donc,
Mais donc là, Ariane est en train de baisser ses prix pour s'aligner sur SpaceX.
Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est un programme. Donc, Ariane 5, l'avant-dernier tir avec Juice a eu lieu il y a maintenant 2 mois. Le dernier tir d'Ariane 5 est en train de se préparer. Je crois que la fusée est quasiment sur son pas de tir. Il a été retardé. Le programme Ariane 6 est un programme qui, théoriquement, doit diviser les coûts pour pouvoir s'aligner vers le bas. Mais on ne va pas y arriver comme ça. Parce que en fait, nous, on a pris du temps pour créer la nouvelle fusée SpaceX, mais pendant ce temps-là, tu as SpaceX qui a lancé le Starship, et le Starship, c'est pas une fusée, c'est une méga fusée. Ça fait 150 mètres de haut, ça fait la moitié de la Tour Eiffel, et ça va envoyer 100 tonnes dans l'espace. En disant, ben, ces 100 tonnes, on va avoir une fusée qui est réutilisable, et donc ces 100 tonnes, on va vous les faire bien moins cher que ce que peuvent faire les nouveaux compétiteurs. Et c'est ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, SpaceX apparaît comme
a pris le lead,
est une société qui est valorisée à 127 milliards de dollars. C'est simplement la confiance, en fait, des nouveaux entrants, des acteurs, pour dire, mais on pense que cet acteur-là a le savoir-faire, a l'ambition, et je crois que c'est ça qui caractérise le New Space, c'est-à-dire que toutes les jeunes sociétés que nous avons en France, eh bien, il faut qu'elles démontrent qu'elles ont de l'ambition, qu'elles ont des savoir-faire, qu'elles sont rapides dans leur exécution. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est cet ADN-là qu'il faut, si on veut conquérir, être dans la nouvelle conquête spatiale, être dans le New Space, et c'est ce que nous faisons chez Latitude, et c'est cet ADN-là qui est...
Vous positionnez comment chez Latitude? Vous allez faire les mêmes prix que SpaceX?
Alors, on va faire moins cher.
Alors, et vos fusées sont réutilisables ou pas?
Pas encore, parce que...
Tu vas vite en besogneur, tu vois.
On
va y revenir.
Parce qu'il faut un peu de temps pour monter des programmes, et le marché n'est pas prêt à ça.
Ouais.
En fait, nous sommes sur un segment de marché qui est le segment de ce que l'on appelle les lanceurs légers.
Mmh. C'est les micro-lanceurs? C'est le même genre de choses?
Oui, alors micro-lanceurs, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais effectivement, c'est cette segmentation-là. Le sujet, c'est de dire que lorsque tu envoies des satellites, on a parlé tout à l'heure du prix d'une fusée Ariane, 92 millions, si tu es seul là-dedans, ça va te coûter très cher pour envoyer un ou deux satellites. Donc en général, ces grandes fusées, elles intègrent de nombreux satellites, soit des gros satellites à vocation militaire ou étatique, soit des plus petits satellites commerciaux. Et donc, c'est comme si tu montais dans un autobus. Voilà. Et un autobus, en général, ça t'arrête sur la place du village.
Ouais.
Et puis après,
tu te débrouilles.
Tu te débrouilles, quoi. Tu vas marcher et c'est normal. C'est le rôle de l'autobus. C'est collectif. Voilà. Donc, les grandes fusées, elles envoient les satellites à un endroit et après, il faut que les satellites trouvent le bon emplacement. Et en matière de spatial, la position est extrêmement importante, la localisation est extrêmement importante et la timeline est extrêmement importante. C'est-à-dire que lorsque tu réserves ton autobus va partir à une heure fixée à l'avance et donc tu as moins de flexibilité. Lorsque tu utilises un mini-lanceur, c'est comme si tu utilisais une voiture ou un taxi, c'est-à-dire que tu le prends quand tu en as vraiment besoin et il va t'emmener exactement là où tu le souhaites dans le bon timing. C'est juste ça, cette différence. Et c'est très, très important. Et donc, tu as des acteurs qui sont prêts pour ce type de service et à condition que le prix soit effectivement corrélé à ce qui se passe sur le marché.
Ok, avant de rentrer justement dans les détails de ce que sont ces lanceurs légers, tu nous disais justement on veut lancer des choses, notamment des satellites dans l'espace. Aujourd'hui, c'est quoi les raisons principales encore d'aller dans l'espace ou d'envoyer des choses? Qu'est-ce qu'on envoie encore exactement?
Alors,
par rapport à l'époque,
il y a plein de... Alors, je vais revenir tout à l'heure sur qui sont les acteurs parce que c'est aussi très très important. Il y a plein de choses très très intéressantes et je vais peut-être vous dire quelles sont les applications que l'on retrouve qui ont notamment été créées par l'exploration spatiale ou la NASA. La première chose, c'est le téléphone satellitaire, le téléphone mobile, qui est devenu le téléphone mobile. Donc, les prévisions météorologiques. Alors, il n'y a pas de machine à café dans cette salle, mais aujourd'hui, la petite machine à café Nespresso, eh bien, elle est directement dérivée de ce qu'on appelle un rover. Rover, c'est une petite voiturette qui roule sur la Lune. Et le rover a besoin de, comment dire, de régularité, et donc il a une technologie qui s'appelle le régulateur proportionnel intégral, et c'est ce qui fait que quand tu fais ton café, ben ça s'écoule tout doucement, de façon parfaite. Ah, okay. Voilà.
Presque.
Et donc vous voyez bien que c'est incroyable. Donc on vit des choses incroyables. Ensuite, on a en matière d'imagerie satellite, la NASA a inventé des filtres et qui permettent de bloquer la lumière. Et par exemple, les skieurs aujourd'hui utilisent des lunettes avec ces fameux filtres, ce qui leur permet de skier dans une neige blanche avec un ciel blanc. Donc on voit bien que le bouclier thermique, par exemple, des navettes, et aujourd'hui, les technologies qui sont dans nos fours micro-ondes, sont issues. Voilà. Donc on voit bien, c'est comme en Formule 1, en fait. Tout ce que l'on peut faire du plus compliqué, à un moment donné, donne des applications
dans le quotidien, dans le monsieur et madame tout le monde.
Alors, donc, la question qui est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue? Ben, parce que, en fait, on a besoin de nouvelles découvertes. Et l'espace permet tout ça. Alors, par exemple, en matière de santé et en matière médicale, on est en train de découvrir que lorsqu'on est en apesanteur, on peut faire des choses qui sont incroyables, quoi. On travaille par exemple sur la médecine régénérative. On est capable de régénérer les tissus, la peau. On travaille sur les fibres optiques.
Ouais.
En fait, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans l'espace qui vont beaucoup plus vite et qui nous permettent d'expérimenter. Thomas Pesquet a expérimenté. Je veux dire, le sens d'être dans la station spatiale, c'est de faire des expérimentations. Claudie Aigneret a passé son temps à faire des expérimentations dans le médical, dans le physique, dans les ligaments, dans les os, dans la médecine en fait. Hein. Voilà. Donc on travaille également sur les matériaux avancés. C'est-à-dire que dans l'espace, on peut fabriquer des choses.
Tu crois, toi, à l'industrie dans l'espace ?
Mais non seulement j'y crois, mais en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu as au moins 13 programmes, américains et chinois, de construction d'usines dans l'espace. Alors, on l'a cité, hein, ça peut être pour fabriquer des nouveaux alliages, pour fabriquer de l'optique. Les alliages se font en impression 3D, c'est des machines qui le font, c'est pas forcément l'homme, mais l'environnement et la microgravité font que les conditions sont différentes et on est en train, par exemple, d'avoir des programmes agronomiques, c'est-à-dire que on fait pousser des vignes, des carottes, des pommes de terre et on voit si elles sont le stress que vit le légume dans l'espace parce qu'il doit s'adapter. Eh bien, en fait, si on le ramène sur Terre, l'idée c'est de rendre les légumes, les fruits plus résistants aux maladies, au stress entre guillemets, et donc de faire progresser l'humanité en matière d'écologie, d'agriculture. Et on voit bien que tous ces programmes-là, c'est pas simplement pour le fun, ça a vraiment des applications, ça aura des applications dans la vie courante, quoi.
Mais petite parenthèse là-dessus, mais l'impact environnemental de produire par exemple du vin dans l'espace, faire pousser ses vignes pour produire le vin après sur Terre, mais tout ça pour faire des bouteilles de vin, est-ce que c'est pas une aberration?
Alors, ce qui coûte environnementalement parlant, ce qui coûte, c'est la fabrication. Je veux dire, quand tu utilises un véhicule, ce qui pollue, c'est beaucoup plus la fabrication. En général, le rapport, il est de 90 à 10. Comme on lance de façon infinitésimale, c'est plutôt la fabrication qui est un facteur polluant. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur toute la chaîne de valeur dans l'industrie aujourd'hui, et c'est ce qui fait que l'industrie est en train de se renouveler, c'est-à-dire qu'on utilise des procédés moins polluants et on recycle de façon régulière. Donc la question que tu posais sur les fusées réutilisables, c'est ça. Alors,
mais le carburant reste quand même un sujet.
Le carburant reste un sujet, mais on utilise maintenant des carburants verts, ça arrive d'une façon très importante dans l'aéronautique. On était au Bourget il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ouais. Les avions font beaucoup moins de bruit, polluent beaucoup moins. Demain, utiliseront des carburants verts. Demain, auront des hybridations.
Mais ils polluent quand même.
Il pollue quand même, mais en même temps, il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas de relation entre oui, les acteurs.
Forcément.
Construire un immeuble en béton, c'est aussi de la pollution. En même temps, on a besoin de se loger. Il faut juste trouver le bon ratio entre être environnementalement efficient et suffisamment.
Mais donc, produire économique dans l'espace, c'est pas une. C'est peut-être un arbitrage qui est allé un peu loin, non?
C'est peut-être une bonne idée aussi.
Okay. Hein, on en discutera avec Nicolas.
C'est ça. C'est peut-être ça le sujet. C'est peut-être effectivement une bonne idée. Et donc, ces programmes sont en train de se multiplier. Et donc, voilà. Alors, on vit un autre bouleversement. C'est-à-dire que l'homme est dans la communication et l'hypercommunication.
On
ne peut plus vivre sans son voilà et donc sans son portable et en fait tout ça induit une demande très très importante en matière de télécommunications et jusqu'à présent les télécommunications alors là il y a aussi une grande transformation c'est que jusqu'à présent les télécommunications étaient circulées on va dire par des câbles sous-marins. Et là, on a un grand changement. C'est-à-dire que sur la Terre, en fait, ou sous les mers, j'ai envie de dire, on a à peu près 99% des échanges, ce qu'on appelle le cloud, mais en fait, le cloud, ça passe par...
Toutes les fibres optiques voilà, marines.
Ça passe par les mers. Et sur l'ensemble des câbles sous-marins, les GAFAM sont propriétaires d'à peu près 37 câbles. Ça veut dire qu'en fait,
sur
un peu moins d'une centaine. Ça veut dire qu'ils ont vraiment la main mise sur l'ensemble des communications. Et là, c'est là où tu te rends compte, là aussi, il y a des enjeux de souveraineté, des enjeux de puissance. Et alors, sur ces 37 câbles intercontinentaux, eh bien, 21 sont la propriété de Google, 16 sont la propriété de Facebook, et puis tu as deux autres acteurs qui sont Amazon et Microsoft, qui à eux deux en ont plutôt une dizaine, beaucoup moins, et qui sont en train d'opérer, parce que des câbles ça coûte cher, c'est compliqué à entretenir, ça peut être sectionné en cas d'attaque ennemie, et donc ces opérateurs-là, ils sont en train de passer sur le satellite.
Justement là-dessus, moi je vais te poser une question, c'est que SpaceX est en train de faire son programme Starlink, programme qui moi me hype énormément, genre c'est vraiment une idée, une techno qui me parle beaucoup. Mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir une espèce d'antenne chez soi qu'on pointe vers le ciel. Il y a quand même des moments où ça fonctionne pas parce que le satellite est pas bien aligné, etc. Est-ce que tu penses vraiment que demain on pourra le mettre dans les iPhones comme ce que Apple veut faire d'ici quelques années?
Alors, en fait, c'est formidable.
Oui, c'est formidable, mais est-ce que ça fonctionne?
Alors, non, mais non seulement c'est formidable, mais ça fonctionne. C'est vrai que le programme SpaceX Starlink est un programme qui est considérable, qui vise à encercler la Terre de 40 000 satellites.
On dit pas un paquet quand même. Plus de satellites qu'il y en a actuellement dans l'espace.
Mais c'est considérable. Et c'est vrai que aujourd'hui, alors. Donc moi je suis colonel de réserve dans l'armée de l'air. C'est un fait que l'élément déclencheur dans le conflit russo-ukrainien a été la destruction par les Russes d'un satellite commercial américain qui couvrait les communications sur l'Ukraine. Et donc très rapidement le sujet a été de dire mais est-ce que Starlink peut rétablir des communications? Et donc, Elon Musk a fait envoyer par avion des centaines d'antennes Starlink, et c'est vrai que ça a permis de rétablir les communications. Et en fait, c'est une technologie qui est très avancée, qui est très éprouvée. Alors, vous connaissez tous les voitures Tesla. Bah, l'antenne SpaceX coûte relativement peu cher parce que pour le moment, ils gagnent pas d'argent là-dessus parce qu'il faut la commercialiser. C'est vrai que c'est design, c'est vrai que ça fonctionne dans un bateau, ça fonctionne en montagne, ça fonctionne à la campagne, là où les opérateurs classiques qui utilisent...
Ça leur coûte trop cher de payer là-bas.
Ouais, ouais. Voilà, là où les opérateurs classiques utilisaient la fibre et aujourd'hui dans les campagnes françaises, tu peux avoir ton antenne Starlink pour un prix défiant toute concurrence, mais qui est aligné sur la concurrence, mais qui te permet de capter. Et là, franchement, on est dans des révolutions qui sont incroyables, quoi. Alors, le compétiteur... c'est Kuiper. Hein, donc c'est Jeff Bezos. Et vous savez qu'entre grands compétiteurs américains, il ne va pas utiliser la fusée SpaceX de Elon Musk. Donc lui, il a choisi Ariane 6. Voilà. Donc on a aujourd'hui un programme pour Ariane 6 qui est le lancement de 18 fusées hein, qui vont envoyer les 3000 satellites dans l'espace de la constellation Kuiper.
Est-ce que ça, c'est bon, on reviendra un peu là-dessus après, mais est-ce que c'est pas une bêtise entre guillemets d'envoyer autant de mettre des acteurs privés pour envoyer des satellites dans l'espace, donc dupliquer les satellites. On n'a pas besoin d'avoir des satellites de deux organisations, il suffit d'avoir les satellites d'une seule organisation qui loue la bande passante à deux acteurs pour déployer sur Terre, et donc d'éviter de polluer l'espace avec 500 000 satellites qui ne servent pas forcément à grand-chose, qui risquent de s'entrechoquer, de créer des déchets qui risquent de briser encore d'autres satellites et de créer un effet boule de neige.
Ah mais moi je vote pour toi tout de suite, hein, tu as parfaitement raison. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un univers compétitif entre la Russie et les États-Unis. On n'a pas la même façon de voir les choses.
Oui, mais là on parle quand même de deux Américains qui privés, qui sont qui font partie des 50 personnes les plus riches sur cette planète, qui se disent attends, moi je veux faire mieux que toi, du coup moi aussi je vais envoyer des satellites dans l'espace.
Ah oui, mais les États-Unis c'est le libéralisme, donc c'est la compétition, et en fait la compétition vise à faire en sorte que l'espace soit démocratisé pour tous, que les télécommunications soient démocratisées pour tous, ça veut dire qu'elles soient le moins chères possible, ça veut dire qu'on trouve des prix d'équilibre pour que tout le monde ait accès. Je veux dire, ce qui est très important, c'est aujourd'hui l'éducation des enfants, des populations. C'est ce qui fait que on trouve la paix sociale, c'est qu'on est des gens qui fonctionnent ensemble. Et tout ça, ça passe par l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi la communication. Et donc, le simple fait d'avoir... Jadis, on avait des livres. Les livres, aujourd'hui, ils sont sur Internet. Et donc, il faut avoir accès à ces livres, à ces bibliothèques. C'est ce qui fait que... je crois que vous aimez bien le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est ça, hein, c'est la connaissance pour tous. Et c'est ce qui fait que, entre guillemets, l'homme devient plus social, plus intelligent, plus intégré parmi les hommes, quoi.
Et justement, tu nous parles de cette compétition entre les pays nationales. Le fait que ce soit deux Américains qui envoient des satellites dans l'espace pour faire des télécommunications, ça veut dire que l'information, l'accès à l'information sera détenu par les Américains, sera une souveraineté américaine. Est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe envoie aussi des satellites de télécommunications dans l'espace ?
Alors, l'Europe est en train de se... D'abord, l'Europe a des satellites, hein. On a des satellites militaires,
Pas de télécommunications comme ce que va faire Starlink, comme ce que fait Starlink.
Alors si, c'est en train d'arriver, et l'Europe, en fait, en Europe, tu as... Donc voilà, je voulais vous parler des acteurs. Ouais. Tu as deux choses différentes. Aux États-Unis, tu as la NASA qui pilote les programmes spatiaux, et en Europe, tu as l'ESA. Donc l'ESA est l'Agence spatiale européenne. En France, tu as ce qu'on appelle le CNES. Alors, tout à l'heure, on parlait de grandeur financière. La NASA, c'est à peu près un budget de 27 milliards. Okay. Voilà, c'est quand même conséquent. Hein. Le budget de la France, c'est 200 milliards. Hein. Donc ça fait 10% du budget de la France. L'ESA, donc l'Europe spatiale, c'est un budget de 7 milliards. Et le CNES, c'est 2,5 milliards. Donc, quand tu n'as pas tous les moyens américains, tu ne peux pas faire tous les programmes. Donc, il faut se positionner sur des programmes. Et puis, à côté de ça, tu as l'Europe, Thierry Breton, qui a été un des dirigeants de France Télécom, des télécommunications, qui est un homme qui maîtrise parfaitement les grands programmes, qui est un passionné d'industrie, qui est un passionné de télécom. Et qui dit, en fait, il faut être compétiteur par rapport aux grands programmes américains, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Et donc, il a lancé, de façon imminente, ce qu'on appelle le programme Iris Carré, Iris 2, qui est un programme d'une constellation européenne sécurisée pour le grand public, mais également pour les gouvernements. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas simplement les constellations américaines, il y aura une constellation européenne qui sera souveraine et qui permettra aux Européens d'avoir cette autonomie dont parlait De Gaulle. Et je pense que c'est un très très grand sujet. L'autre sujet, c'est pour l'Europe, c'est quelle va être sa priorité. Alors Elon Musk nous explique qu'il va sur Mars. Est-ce que c'est une priorité pour nous? Pas forcément. Par contre, le vol habité peut être une priorité.
Concernant les constellations, est-ce que le fait justement d'avoir une constellation européenne, ça va au-delà des enjeux économiques, mais aussi pour des enjeux militaires? C'est-à-dire justement même d'avoir du privé qui puisse assurer des télécommunications, ça puisse permettre, en cas de conflit, d'éviter des coupures ou...
Alors, c'est une très bonne question, parce que En fait, l'Europe est en train de comprendre comment a fonctionné les États-Unis, et on l'a dit, les États-Unis se sont entourés d'acteurs commerciaux. Aujourd'hui, tu as un commandement de l'espace en France, qui est implanté à Paris et à Toulouse, mais qui est implanté à Toulouse au sein du CNES, et qui, dans 2 ans, aura à peu près 500 collaborateurs. Et ce commandement de l'espace a comme mission d'opérer de façon militaire, c'est-à-dire d'une part de surveiller ce qui se passe dans l'espace pour protéger nos propres actions, nos propres équipements, et puis nous renseigner sur ce qui se passe vraiment.
Et quand on est loin de Star Wars hein, sur les applications, c'est ça?
En fait, on n'est pas loin de Star Wars. On n'est pas si loin de Star Wars. Okay. Parce que quand tu es dans la salle du commandement de l'espace, tu vois l'ensemble de la galaxie et tu vois des satellites qui se poursuivent, qui se pourchassent, notamment des satellites russes et des satellites chinois. Et c'est vrai que dans l'espace, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser des armes, mais par exemple, si je te frôle ton satellite, ça va le désorbiter et du coup, c'est terminé. En fait, c'est beaucoup plus subtil qu'on l'imagine. C'est une espèce de guerre, là aussi froide, on appelait ça froide parce que justement, elle n'était pas ensanglantée. C'est une guerre technique. Et le commandement de l'espace a comme mission d'assurer la protection, la surveillance, et donc lui-même fait appel aujourd'hui, comme les Américains, à des acteurs privés. Et dans l'exercice Astérix que nous avons eu à Toulouse récemment, il y avait des acteurs privés qui viennent apporter leurs compétences techniques, technologiques, parce que ils vont plus vite dans les programmes. Jadis, les grands programmes, un grand programme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très long. C'est très long, ça demande des ingénieurs, ça demande de la redondance, ça demande de la sécurisation à tous les niveaux. C'est ce qui fait que la technologie est parfaite, et ça a été le sujet d'Ariane pendant de très nombreuses années, une technologie parfaite. Par exemple, le télescope James Webb là, qui a été lancé par Ariane a été tellement lancé de façon tellement précise que ça a augmenté la vie du satellite et ses capacités de perception. Donc on voit très très bien l'importance. Donc on fait le commandement de l'espace est en train de faire appel, de rencontrer un certain nombre d'acteurs parce que ça vient consolider les technologies françaises qui sont peut-être plus robustes et plus rustiques et qui ont besoin d'évoluer comme les Américains vers plus de compréhension et plus de connaissances.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Et du coup, pour revenir sur les vols habités, Virgin Galactic vient de lancer sa première navette de tourisme spatial. Est-ce que ça, c'est une piste que les Français et les Européens creusent? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel toi, tu crois? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir?
Alors, c'est absolument quelque chose qui a de l'avenir. Je pense que c'est absolument très important. On a bien vu le travail extraordinaire qu'a fait Thomas Pesquet. Hein. Vraiment, il faut passer du temps dans l'espace pour pouvoir faire des expériences. Et ces expériences, finalement, 3 mois d'expérience apprend tellement de choses qu'on gagne des années en termes de sciences et de technologies. Donc ça nous paraît très important. Ça va nécessiter d'avoir une technologie adaptée. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit des avions qui décollent avec avec une petite navette embarquée. Voilà, des acteurs français sont en train de travailler sur ces sujets-là. On a...
Il y a des exemples d'acteurs français ?
Oui, mais bon, on ne va pas les citer parce que c'est un peu confidentiel. Mais le sujet, c'est vraiment se lancer dans l'exploration spatiale à partir de l'homme. Et puis tu as ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameuses usines dans l'espace. Eh bien, il va bientôt falloir les construire. Et aujourd'hui, vous savez que l'aéronautique vit également une révolution, c'est-à-dire que maintenant, on a des drones. Un drone, c'est un avion sans pilote, c'est-à-dire qu'on est capable de l'opérer au sol. Eh bien, je pense que la station chinoise s'est construite avec des fusées, avec des drones. En fait, le transport spatial va devenir un segment d'activité à part entière et la logistique spatiale vont devenir des segments d'activité. Et c'est très intéressant parce que, alors...
Pour revenir peut-être sur le pourquoi cette conquête et à quoi ça sert, est-ce qu'il y a des sujets d'innovation aujourd'hui qui peuvent être faits que dans l'espace et qui nécessitent justement d'aller faire des voyages là-haut, autre que uniquement le fait d'aller plus loin dans la production. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets presque pour sauvegarder notre humanité qui méritent qu'on aille dans l'espace ou pas?
On les a cités tout à l'heure, hein, les grands programmes qui sont des programmes technologiques, qui sont des programmes de médecine, qui sont des programmes agricoles, qui sont des programmes de surveillance de la Terre, de surveillance de l'atmosphère. Tout ça contribue, hein, vraiment. Vous voyez, par exemple, en agriculture... jadis, on labourait son champ. Aujourd'hui, un tracteur, c'est quasiment une navette spatiale. Hein. Vous avez un joystick, vous avez des écrans partout, et vous êtes piloté par satellite. Ouais. Alors, en plus, maintenant, il y en a qui se conduisent tout seuls, effectivement. Mais globalement, ce que dit le satellite, c'est il analyse la Terre. Il t'analyse le taux d'hygrométrie, il t'analyse la minéralité de la terre et il dit ben là il faut mettre soit plus d'eau, soit moins d'engrais, et il qualifie les voilà. L'agriculture devient une science, c'est technologique. Et donc on augmente les rendements sur une même parcelle, on a plus d'efficacité. Tout ça c'est grâce à l'espace. Les voitures dont on parlait, les voitures Tesla, elles sont connectées en permanence. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il y a eu des grands incendies en Californie ou en Floride. Et Tesla a décidé d'augmenter le range de ses véhicules simplement par des effecteurs électroniques en disant « voilà, parce que ça va permettre de sauver des vies ». Et donc, on voit bien que la technologie, en fait, est au service... de l'humanité, de la préservation de l'homme et de plus de qualité sur Terre et de plus d'écologie quelque part. Je vais vous citer un autre exemple et ça va peut-être vous faire bondir, mais Nutella utilise les satellites simplement pour observer, pour démontrer qu'ils n'utilisent pas d'huile de palme.
Ok. Hein, et ils n'utilisent plus d'huile de palme, Nutella.
Je ne suis pas consommateur.
T'es pas dans les petits papiers.
Et pour démontrer qu'en fait, il n'y a pas de déforestation et qu'ils sont dans des programmes de reforestation. Donc, pour eux,
c'est... Ouais, mais là, c'est de la communication, ce n'est pas utile en soi.
Si, c'est utile parce que tu dois pouvoir communiquer auprès de tes actionnaires, auprès des gens qui financent tes programmes. Et ceci, c'est en train de tout changer. Aujourd'hui, par exemple, un des grands défis des startups, c'est qu'elles doivent, vous le savez, lever de l'argent continuellement pour pouvoir effectuer leur programme et leur progression. Et aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle les exigences environnementales, c'est-à-dire que tu ne peux plus lever d'argent si tu es dans des activités carbonées, polluantes, parce que les fonds d'investissement eux-mêmes arrivent à lever de l'argent que s'ils démontrent qu'ils sont dans le décarboné. Et donc cette exigence-là, qui est une exigence très européenne, hein, que qui fait partie, on va dire, des fondamentaux européens et qui voudrait être opposé au reste du monde pour justement plus d'écologie et plus de préservation de la Terre. Cette exigence fait que, entre guillemets, on est dans une dynamique beaucoup plus vertueuse en France et en Europe, et que tout ce qui est polluant ne va plus pouvoir se faire financer. Et donc, tout ça a un sens. Tout ça a un sens fondamentalement.
Par rapport, justement, tu le mentionnais, on va avoir besoin, donc on a des enjeux environnementaux à la fois au niveau de l'opinion publique, on va avoir besoin d'envoyer peut-être des usines, pourquoi pas des voyages spatiaux. Par rapport à tout ça, c'est quoi, selon toi, les futures barrières techniques à faire sauter? Est-ce que ça va être plutôt trouver des nouveaux moyens de propulsion qui sont avec une plus grande autonomie? Est-ce que ça va être faire des fusées plus légères? Est-ce que ça va être...
Alors, c'est une excellente question. Alors,
qu'est-ce que c'est les grandes innovations
sur le fait d'envoyer des gens dans l'espace tout de suite, des touristes? Bon, il faut comprendre que en 1850 à Paris, tu as eu la création de la première gare qui devait être la gare Saint-Lazare, et qui en fait était un espèce de quai d'embarquement, on appelait ça un embarcadère. Et au début, tout le monde s'est dit, mais ça sert à quoi? Ça n'a pas d'intérêt. On était quand même avec des carrioles en bois, avec des chevaux. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce truc de bobo qui... Parce qu'en fait, ça emmenait les gens du côté de Versailles et du côté de la belle campagne. Et ça a été très, très critiqué. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu que ça fonctionnait. D'abord, il n'y avait pas d'accident, que c'était régulier et que, en fait, ça permettait effectivement de sortir de Paris, mais également de faire rentrer dans Paris des marchandises et donc d'alimenter la capitale. Et donc, très rapidement, tu as eu un engouement sur le train et tu as eu la construction de la gare Saint-Lazare, de la gare du Nord, de la gare, on va dire, du Sud, qui était Orsay ou gare de Lyon, et puis Montparnasse. Et je crois qu'au bout de 20 ans, on a été obligé de tout détruire pour tout reconstruire tellement le succès a été là. Alors, on est à l'échelle de la France. Hein. Je vous rappelle qu'en France, il y a quand même un siècle, on n'avait pas la même heure à Marseille qu'à Paris. Chaque territoire, entre guillemets, avait une délimitation, avait des horaires spécifiques, et c'est le train qui, entre guillemets, a déterminé l'heure horaire et qui a fait que il fallait être précis. Le départ du train est à telle heure, il doit arriver à telle heure.
L'heure n'était pas indexée sur le soleil, etc.
Non. C'était chaque territoire avait son
référentiel.
Son référentiel. Donc, ce qui paraissait à un moment donné un truc de bobo, un truc stupide, en fait, a connu un très, très grand engouement. Donc la question aujourd'hui des touristes qui vont dans l'espace, est-ce que c'est un truc de bobo stupide? Certainement, parce que pour le moment...
Pour l'instant, il n'y a pas d'utilité en tout cas.
Alors, oui, mais...
Peut-être que quand on a inventé le train, il n'y avait pas d'utilité directement imaginable, mais on pouvait quand même se dire que ça permettait de rentrer et d'aller d'un point A à un point B, et donc de transporter quelque chose d'un point A à un point B, donc potentiellement de la nourriture, des gens, etc. Là, en l'occurrence, on va d'un point A à un point A en passant par l'espace.
C'est la même chose. On va aller d'un point A à un point usine, on va livrer des choses, on va avoir des gens qui vont faire des expériences.
Donc tu vois plutôt le transport de personnes plutôt dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que on va transporter des personnes qui vont aller travailler dans des usines.
Là, c'est la grande différence. C'est-à-dire
qu'effectivement, qui vont pas aller faire du tourisme pour aller faire leur selfie à la limite de l'espace et revenir sur Terre pour poster sur Insta.
Voilà. Je pense que l'idée là du tourisme, en fait, c'est l'idée de dire d'avoir peut-être une réflexion philosophique sur le sujet. Alors évidemment, tu as toujours des milliardaires qui ont la possibilité de faire, mais lorsque tu parles avec Thomas Pesquet, il t'explique que en fait la vie dans une station spatiale, c'est pas une sinécure, c'est-à-dire c'est pas une semaine de vacances.
Ah non. Ouais.
Ça sent très mauvais. T'as des odeurs, des bruits électroniques. Et Thomas dit, lorsque je fais une sortie dans l'espace et que je reviens, c'est quand même très très difficile, quoi. Hein, donc. En fait, les astronautes ne le disent pas, mais ce n'est pas du tout une promenade de santé. En plus, Quand tu es en apesanteur, il faut que tu fasses du sport. Voilà, il faut que tu fasses du sport tous les jours.
Physiquement, ce serait compliqué.
C'est compliqué. C'est compliqué pour ton ossature. Donc, il y a beaucoup de contre-indications. Donc, le simple fait qu'il y ait des touristes, déjà, ça permet de montrer que la chose est possible, elle est envisageable, et ça permet d'acculturer au fait que on pourra faire ça. Et je pense que en ce sens-là, c'est pas dénué d'intérêt. Et par ailleurs, ça permet de, on va dire, de drainer des investissements parce qu'il y a des gens qui y croient. C'est une espérance partagée. Alors, comme c'est pas forcément une semaine de vacances que d'être dans l'espace, vous savez que les Français sont créatifs. Voilà. Donc, on a par exemple à Reims, nous on fabrique des fusées à Reims, je le rappelle. On a une grande maison qui s'appelle Moom et qui, grâce à un designer fantastique là, qui s'appelle Octave de Gaulle, c'est étonnant.
Encore un de Gaulle,
finalement a designé ce qu'on appelle la bouteille de champagne de l'espace. Et donc, c'est une bouteille avec des pistons. Et dans l'espace, lorsque tu ouvres une bouteille de champagne, en fait, tu n'as pas de liquide, mais tu as une espèce de granularité que tu croques. Et l'idée, elle est de dire, et elle est philosophique, l'idée est de dire que finalement, l'homme dans l'espace perd ses repères. Il n'a plus de repères, on va dire, du son, de l'odeur, perd ses repères physiques, perd ses repères même psychologiques. Et la bouteille de champagne, par le goût du champagne, va lui redonner la saveur de la civilisation sur Terre. Et donc,
c'est quand même un luxe de se redonner le goût de la civilisation par du champagne.
C'est pas un luxe, à mon avis, c'est une nécessité. On a besoin de savoir que l'on est un homme.
Le champagne est une nécessité.
Voilà, le champagne est le fruit du travail de la Terre. C'est fondamentalement français et les Américains trouvent ça complètement délirant et nous envient ça, quoi. Voilà.
On part un peu du postulat que envoyer plein de choses dans l'espace, c'est bien, et qu'il n'y a pas de risque de qu'à un moment il y ait trop de satellites et trop d'objets dans l'espace et que ça crée une pollution et des déchets. Est-ce que c'est un risque ou pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets qui se battent dans l'espace parce qu'on redescend pas ce qu'on envoie dans l'espace. Et donc, il y a des objets qui sont libre gravitation et qui risque de se rentrer dedans, etc.
C'est un vrai problème, en fait. Hein. C'est un vrai problème parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la multiplication des satellites, il faut comprendre que, en fait, un satellite a une durée de vie limitée. Ouais. Un satellite, c'est envoyé par une fusée. Ensuite, ça fonctionne avec des panneaux solaires.
Pendant une dizaine d'années?
Beaucoup moins, en fait. Ça peut être de 3 à 5 ans et plus performant jusqu'à 8 ans. Donc, en fait, une fois que ces satellites sont, ont atteint leurs limites techniques et physiques, ils deviennent des objets polluants. Alors, la France est très en avance sur tous les sujets d'écologie, de réglementation. Et donc, vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle la LOS et qui vise à un petit peu réguler le spatial parce que, pour le moment, le spatial n'est pas du tout régulé, quoi. On n'y fait pas exactement ce qu'on veut, mais globalement, c'est un sujet. On a eu, après la première conquête spatiale en 1967, on a eu un premier traité de l'espace entre les différents acteurs. Et dans les années 80, on a créé une convention sur l'immatriculation des objets lancés. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, mais à qui appartient quoi? Et on peut pas faire n'importe quoi, on veut une traçabilité. Bon, mais aujourd'hui, la multiplicité des objets et puis tous ceux qui tombent en désuétude. Donc la France a proposé que les objets soient à un moment donné réglementairement désorbités. C'est-à-dire que tu fais en sorte que ton satellite revienne dans l'atmosphère et à ce moment-là, quand il revient, il est désintégré. Et donc, ça limite, on va dire, la pollution spatiale. Mais c'est un vrai sujet parce que les satellites tourne quand même à 28 000 km heure et que donc la moindre petite chose dans l'espace, désintègre tout ce qu'elle touche. Et donc la station spatiale, tenez-vous bien, elle est blindée. Justement à cause de ça, parce que
oui, mais par exemple, la station spatiale, c'est un super exemple. Le jour où il va falloir la redescendre sur Terre.
Il arrive bientôt ce jour-là.
Voilà, il arrive bientôt. La station spatiale, elle est blindée, elle est plein de matériaux qui sont faits pour que si, quand elle va redescendre, elle va pas se décomposer, elle va pas les atomes vont pas tous se séparer et finir juste en particules fines qu'on va pas sentir arriver sur Terre. Du coup, on sera obligé de la faire atterrir au milieu de la mer de l'Atlantique, je crois.
Non, c'est dans le Pacifique.
Aussi en Pacifique, au moins il y a un espace de quelques kilomètres carrés où on peut faire atterrir des choses qui sont réservées pour faire descendre des choses de l'espace. Ça reste quand même un calcul à la microseconde.
Mais tu vois, comme on désarme un bateau, donc il y a effectivement un certain nombre de pièces qui vont être démontées. Ça va créer là aussi une nouvelle activité qui est celle de monter, c'est celle de démonter. Donc tu as du service dans l'espace et je pense que ce qui sera désintégré sera, la carcasse. Tout va être tout est pensé pour être réutilisé. Donc je pense que ça sera une expérience en soi. Ça sera une expérience en soi. Mais pour les futures usines. Donc, on a dit tout à l'heure 13 usines, c'est un nouveau sujet. Et quand on parle de 13 usines, c'est 13 usines américaines connues. C'est-à-dire que les Chinois, nous n'avons pas d'informations sur
Les Européens
Les Européens, pour le moment, ils sont en train de se poser la question. On n'y est pas encore.
On se pose souvent les questions après les Américains, quand même.
Eh bien, oui, parce que les Américains sont un peu des explorateurs, sont des aventuriers. Les Français sont des très, très bons ingénieurs. Et donc, on n'est pas forcément sur les mêmes façons de fonctionner, quoi. Donc, c'est pas... bien sûr.
Et est-ce que les micro-lanceurs, justement, peuvent solutionner ce problème de débris? En tout cas, ça éviterait d'avoir... des débris de plus gros lanceurs qui restent en orbite dans l'espace?
Alors, les micro-lanceurs...
Ou les lanceurs légers.
Oui, visent à être efficaces et à rendre des services précis et donc, quelque part, effectivement, à être moins polluants de par leur masse. C'est un peu comme des aiguilles d'acupuncture, en fait. Hein. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un traitement lourd, on a besoin de choses très fines et très efficaces. Et je pense qu'en soi, c'est déjà économique, écologique de fonctionner comme ça, c'est-à-dire que tu fonctionnes sur ton besoin et non pas sur une... C'est pas de la consommation de masse, c'est vraiment de la consommation, très précise et très très affinée, quoi.
Une question que je me posais tout à l'heure, tu parlais beaucoup de souveraineté. Est-ce que quand on est une entreprise privée justement dans le new space, on ressent vraiment aussi l'influence des institutions, des agences publiques et de toutes ces questions-là, souveraineté militaire, technologique, dans le quotidien de l'entreprise?
Alors en fait. Il y a deux choses. Soit tu fabriques des satellites.
Ouais.
Donc là, c'est une technologie. Ce sont des programmes scientifiques, des programmes d'ingénieurs, des programmes technologiques. Lorsque tu commences à fabriquer des lanceurs, tu passes sur une réglementation et un contrôle d'État parce que les lanceurs sont considérés comme le début d'une potentielle arme de guerre.
Au même titre qu'un missile.
C'est ça. Voilà, donc c'est cette réglementation qui fait que tu es en fait très encadré, très surveillé, contrôlé, que tu dois faire des demandes d'autorisation, des autorisations de fabrication, des autorisations de vol. La France est très réglementée sur le sujet. Jadis, récemment, il y a eu un petit film là qui s'est appelé L'Astronaute, qui montre un jeune ingénieur qui va fabriquer dans son jardin une fusée. Et nous avons reçu au Bourget, il y a 15 jours, des jeunes ingénieurs qui n'ont pas encore fait leur école, avant d'intégrer l'école, et qui sont en capacité de faire dans leur jardin des fusées. Ça veut dire qu'en fait, c'est une technologie qui est à la portée de quelqu'un d'entreprenant et d'ingénieux, et donc forcément, c'est quelque chose qui est à encadrer. Voilà, donc l'idée de l'espace pour tous, l'idée du spatial pour tous... fait son chemin. Je pense qu'il faut que tout ça soit encadré parce qu'on peut pas. C'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est pas un sport de masse et les fusées, c'est quand même très très spécifique.
Aujourd'hui, comment ça encadré tout ça?
Alors aujourd'hui, tu as en France donc des acteurs institutionnels dont on a parlé tout à l'heure. Hein, donc le CNES créé en 1961 qui s'occupe des programmes. On a dit 2500 personnes à Toulouse, à Paris. Et puis tu as d'autres acteurs. Tu as le commandement de l'espace lui-même, hein, 500 militaires bientôt à Toulouse, qui servira de référence d'ailleurs pour le spatial de l'OTAN. Et puis, tu as également la Direction Générale de l'Armement qui surveille les grands programmes, qui apporte sa régulation, ses réglementations. Et puis, tu as un acteur qui est un peu moins connu, qui est un peu l'Aerospace Lab de la France, qui s'appelle l'ONERA, qui est un organisme de recherche et qui monte des programmes applicatifs.
Mais là, on est sur des acteurs français. Oui, le sujet spatial, c'est un sujet qui est international. Est-ce qu'il y a un acteur international qui domine et qui permet de réglementer et coordonner un peu tous les acteurs nationaux ou pas?
Alors, pas encore. La question, c'est que pour le moment, il y a eu des traités entre des gouvernements, c'est-à-dire, on va dire, un espèce de gentleman agreement pour dire on ne s'agresse pas, mais on sait qu'il y a des agressions spatiales maintenant. Et donc, la militarisation de l'espace, dont on parlait après la guerre froide, est en train de devenir quelque chose de concret. C'est-à-dire que ces grands pays se confrontent et se confrontent technologiquement. Et donc, je pense que c'est encore un peu compliqué pour arriver à quelque chose. Parce qu'en fait, l'espace est infini. Donc, il n'y a pas de limitation. Une frontière, tu vois, par exemple, on a décidé qu'on arrivait dans l'espace en Léo, c'est-à-dire on a décidé d'une frontière à 100 km au-dessus de la Terre. Bon. Certains Américains considèrent que c'est plutôt 120, d'autres disent bah 80, on est dans l'espace. Donc c'est très difficile de trouver la bonne barrière parce que en fait, ce sont des lignes imaginaires qui s'atténuent. Vous avez des couches atmosphériques. C'est sujet à interprétation. On peut pas être rationnel sur le sujet. Il n'y a pas de délimitation. Voilà. Donc c'est simplement un gentleman agreement entre les grands acteurs, entre les grands pays pour dire voilà, là on pourra faire ceci, là on ne pourra pas faire cela. Maintenant, comme dans toute réglementation, bah tu as des personnes ou des acteurs qui transgressent la réglementation et après il faut des autorités. En tout cas, pour le moment, le sujet c'est de se dire comme il n'y a pas de régulation sur le sujet, chacun doit assurer sa propre sécurité.
Tu as utilisé une expression sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'est que l'espace est infini. Et en fait, il n'est peut-être pas tant que ça. On a tendance à apprendre que... Non mais, je vais m'expliquer.
Ouais. Il a vu des petits hommes.
Non, mais on a tendance à apprendre que l'espace est infini. Parce que en soi, il l'est. Ok. Mais par contre, l'espace pour les satellites, pour les acteurs qui vont faire de la production dans l'espace, l'est pas tant que ça. Parce que l'idée, c'est d'avoir... Les avantages de l'espace sont avoir les inconvénients. Du coup, c'est de ne pas aller trop loin de la Terre. Et donc, en fait, on va rester dans
c'est quantifié.
On va rester dans une petite zone. Et en fait, cette petite zone, elle va vite être surchargée. Et donc, dire que l'espace est infini, est-ce que c'est pas un peu
Mais ça dépend de quoi on parle.
Évincer un problème.
Ça dépend de quoi on parle, en fait.
En fait, les gros satellites, on les met très très haut. Parce que ils ont une vision plus globale, mais plus tu es haut, plus ça coûte cher, plus c'est compliqué à réparer, et puis plus tu as une dispersion de l'information. Ouais. Hein. Ça c'est simple à comprendre. Si tu regardes avec des jumelles un objet, plus tu es loin, plus il faut que tu augmentes la capacité de ta jumelle et plus l'image sera moins parfaite. Et dans les télécommunications, plus tu es loin, plus c'est compliqué. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que l'idée d'être à 100 km autour de la Terre, donc on appelle ça en orbite Léo, en orbite basse, c'est quelque chose qui convient aux technologies d'aujourd'hui, aux petits satellites que l'on peut envoyer plus facilement. Il faut savoir qu'un petit satellite, maintenant, c'est la taille d'une grosse boîte à chaussures, hein, c'est entre 25 et 50 kilos, et... quand on dit pas cher, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, mais lorsque tu es dans un business model, par exemple, de gens qui font des télécommunications ou qui exploitent des données terrestres, ce sont des modèles économiques qui fonctionnent très bien. Donc, ces modèles économiques sont en train de se développer de façon importante, et donc forcément, la demande est en train de se développer de façon importante. Donc, effectivement, c'est comme le périphérique, hein. Léo, c'est vraiment proche de Paris et de la Terre, et donc c'est là où il y a de plus en plus de voitures, et forcément, à un moment donné, c'est là où ça va être encombré. Donc, d'où l'importance de régulation, d'où l'importance de nettoyer, de désorbiter ces machines, et d'où l'importance d'être plus efficace, et peut-être demain d'avoir des satellites qui auront des capacités d'autonomie, qui seront mieux motorisés, parce qu'on découvre plein de choses. Voilà.
Là-dessus, il y a des entreprises qui travaillent sur l'optimisation des satellites pour qu'ils durent plus longtemps. Est-ce qu'il y a des innovations que tu vois arriver là-dessus ou pas forcément?
Alors, il y a beaucoup d'innovations, hein. On est vraiment en train de travailler sur plein de choses intéressantes. Par exemple, la propulsion nucléaire thermique. Elon Musk nous explique que pour aller sur Mars, il va falloir 2 ans pour un voyage aller. Le voyage retour non garanti. Bon, si tu changes de technologie, que tu passes à la propulsion nucléaire thermique, eh bien, tu vas envoyer ton équipage sur Mars en 45 jours. Donc, 45 jours, c'est déjà beaucoup, mais tu peux mieux modéliser ça.
Ensuite, 45 jours sur Mars, c'est faisable.
C'est quelque chose qui est envisageable.
Ensuite, envisageable, pas faisable.
Oui, envisageable.
Chaque mot est important.
Mais oui. Conceptuellement envisageable.
Okay.
Ensuite, tu as ce qu'on appelle les avions spatiaux autonomes. Donc, ce sont des navettes spatiales. Jadis, dans la navette Challenger, tu pouvais pas rester plus d'une douzaine, une quinzaine de jours. Il fallait rentrer pour des questions d'autonomie, d'oxygène. Tu vas pouvoir, avec ces navettes spatiales, augmenter de façon considérable parce qu'elles seront... Elles seront non habitées, tu vas pouvoir augmenter leur rayon d'action, leur trajectoire et leur temps passé dans l'espace. Donc tu as plein d'innovations. Tout à l'heure on a parlé du vol habité, ben c'est la même chose. Là aussi on sera en capacité d'avoir plus d'autonomie, de passer plus de temps et donc d'avoir plus d'observation et ça semble aller dans le sens du progrès.
Tu mentionnais la propulsion nucléaire, justement, c'est vrai que on a toujours utilisé en partie des ergols ou des biocarburants pour pouvoir notamment s'abstreindre de la gravité. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles technologies qui étaient à l'étude, par exemple autour du plasma, etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as une visibilité? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant justement pour imaginer aussi une autonomie vraiment plus grande sur des programmes beaucoup plus ambitieux?
Alors, on n'a pas encore de visibilité. En fait, toutes ces choses-là sont expérimentales. On sait simplement qu'il y a des briques technologiques. Une brique technologique, n'a une chance d'aboutir que si derrière tu as un programme commercial ou alors c'est un programme d'État. Je pense que aller vers ces programmes-là, c'est déjà être très très ambitieux. Et seuls les grands acteurs de type américain ou chinois ont la capacité à aller sur ces programmes-là. Nous devons rester mesurés. Je pense que le vol spatial habité est une chose très intéressante. Voilà, on parle également d'exploiter les ressources minières de la Lune. Hein. C'est aussi une des motivations des Chinois. C'est que les Chinois sont très en avance dans la fabrication des batteries. Et donc, il faut trouver des nouvelles sources d'énergie, des nouveaux minerais. Donc, l'idée d'une exploration lunaire et d'une exploration du sol de la Lune peut être quelque chose d'important. Mais vous savez qu'en France, Napoléon avait créé les écoles des mines, donc on a de très bons ingénieurs des mines, donc il va falloir peut-être envoyer des ingénieurs des mines dans l'espace.
Okay. C'est quelque chose ça, qui est à l'étude ou pas forcément?
En France, oui, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, les ingénieurs réfléchissent. Après, question de réalité économique, il faut pouvoir mettre des moyens en face, quoi.
Ouais. Est-ce que, là, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la France et très, très peu de l'Europe, est-ce que c'est parce que la France joue un peu seule sur ce terrain-ci et même s'il y a une organisation européenne, ça se passe avant tout en France et c'est majoritairement financé par la France et on a une organisation en Europe pour faire du marketing ou alors il y a des vrais programmes européens?
Alors, il y a des vrais programmes européens. On en a parlé tout à l'heure avec la constellation IRIS². L'ESA est en train de réfléchir à sa prochaine roadmap. Alors, vraiment, ça se fait en concertation avec l'ensemble des pays européens. C'est vrai que l'Allemagne prend une longueur d'avance sur le sujet. Tout à l'heure, on a parlé de l'impossibilité des Allemands, après la Seconde Guerre mondiale, d'aller sur le secteur de l'aéronautique. Aujourd'hui, ils sont attaqués fortement sur le secteur de l'automobile par l'automobile chinoise. Et c'est vrai que pour eux, l'espace est une façon de... Pour un Allemand, son ingénierie et, le fabriqué allemand est quelque chose de très, très important. Et donc, le fait d'aller sur le secteur spatial, pour eux, est une façon de sublimer, on va dire, l'ingénierie allemande. Et c'est un démonstrateur de leur capacité à savoir faire bien et à bien faire. Et je pense que c'est un enjeu très important pour nous. Après, la compétition avec la France est aussi très, très importante. Et donc, il faudra trouver dans une agence spatiale européenne le bon équilibre entre les différents acteurs.
Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt la France et l'Allemagne qui se, pas ils se tirent le chou, mais un petit peu quand même sur le...
Qui se tirent la bourre, on peut le dire. Voilà, okay. Voilà, absolument, absolument. Okay. Mais ceci dit, l'Italie est très, très bonne. Hein,
ouais. Qui fait aussi son truc de son côté.
Qui lance ses programmes, mais qui a des programmes de coopération. Par exemple, une société comme Thales Alenia Space, hein, qui est directement en relation avec nos amis italiens, qui est une jeune venture avec une grande entreprise italienne. Ce sont des entreprises très, très performantes qui équipent la NASA, qui équipent la station spatiale et qui sont présentes sur des propositions commerciales et technologiques qui sont de premier ordre. Hein. Vraiment, on a des acteurs de premier ordre.
Et ça, pourquoi on ne le fait pas en européen ?
On le fait en européen, mais c'est-à-dire que c'est un choix...
On le fait en européen tout en restant nationaux, donc on ne le fait pas vraiment en européen.
Voilà, mais ce sont des choix de programme. Je pense que là, aujourd'hui, l'ESA... un nouveau président qui s'appelle Joseph H. Barrer, qui a beaucoup d'ambition sur le sujet. La première ambition politique, c'est vraiment de réunir tous les acteurs et c'est d'avoir des programmes partagés. Et la façon de réunir tous les Européens sur un programme partagé peut être le vol habité. Voilà. Et vous avez vu la présentation des astronautes. Hein. Chaque pays a présenté ses astronautes. On a des astronautes formidables. Voilà, la petite Sophie en France est pilote dans l'armée de l'air. C'est quelqu'un qui est passionné du spatial depuis toujours. Thomas Pesquet est une belle illustration. Chaque pays a produit entre guillemets des astronautes d'une nouvelle génération. Et je pense que on aura des vols habités avec des retours scientifiques de très très grande qualité.
Et est-ce que tu penses que l'Europe justement peut, on va dire, en trouvant ce consensus, vraiment s'affirmer comme une puissance du spatial au même titre que les Chinois
et les Américains ? Oui, sur des programmes spécifiques. Alors tu vois, par exemple, en France a été nommée récemment Géraldine Najat, qui est une polytechnicienne, qui est en charge de la commercialisation des programmes spatiaux européens. Et je pense que sur des sujets comme la biofabrication, l'agriculture dans l'espace et les progrès sur les matériaux, on aura des programmes qui vont être des programmes commerciaux, qui vont gagner de l'argent et qui vont permettre de financer en fait cette conquête du spatial. Parce que comme vous l'avez compris, dans tout ce dont on vient de parler, en fait, il n'y a de conquête spatiale que s'il y a des moyens technologiques et des moyens financiers pour les alimenter et une ambition nationale et à l'échelle du continent et d'Europe.
Et vos fonds, justement, ils viennent principalement d'investisseurs privés ou publics ou les deux?
Alors en France, donc les startups, on a des programmes exceptionnels hein, qui un peu ont été calqués sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais tu as BPI France, tu as le programme France 20-2030, c'est-à-dire que en fait, dès que tu as des développements dans un secteur d'activité, si ce développement est soutenu, il va générer des nouveaux développements. Et donc, les pouvoirs publics ont compris que lorsque tu investissais en, tu étais en capacité de recueillir, et dans le spatial, c'est ça, c'est plutôt 4. Et donc, en fait, chaque fois qu'il y a de l'argent public mis sur un programme qui est checké, qui est contrôlé, etc., c'est pas de l'argent public dépensé n'importe comment, bien, cet argent public va générer x4, et du coup, c'est ce qui crée ce qu'on appelle le développement économique. Et donc, les startups, sont en perpétuelle recherche de fonds auprès d'investisseurs privés. Et ce qui rassure les investisseurs privés, c'est qu'il y ait
des
acteurs publics, et notamment en France,
ouais.
Et des acteurs publics souverains et non souverains, des acteurs également militaires. Et vous l'avez bien compris tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la capitalisation de SpaceX, en fait, c'est la confiance dans les acteurs qui fait qu'un modèle économique va pouvoir prospérer. Et c'est ce qu'on appelle le développement économique, tout simplement. Et donc, les 33 000 personnes qui travaillent dans le spatial en France, vous comprenez que c'est une force économique importante et que c'est ça qui va, entre guillemets, ouvrir les nouveaux marchés dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on considère que l'espace, en fait, est vraiment le nouveau business qui s'ouvre. Et qui s'ouvre notamment aux Français de par la qualité des ingénieurs et de par le nombre des ingénieurs. Et toutes les sociétés qui se créent appellent des nouveaux étudiants à venir rejoindre ce segment d'activité. Et je pense que là, on est sur la préparation de l'avenir pour tous les jeunes Français et pour notre économie nationale. Quoi.
Chez Latitude, vous êtes soutenu financièrement par Bruno Bonnel et France 2030 ou pas?
Alors, pas encore, mais les programmes sont en train de
mais
naître.
C'est en cours.
C'est en cours.
En cours de discussion.
D'ailleurs, Bruno, si tu nous entends, you're welcome.
Il passe bientôt
très bien,
sur ce micro.
Très bien.
Il passe bientôt sur ce micro. En plus, c'est un grand ami de la moitié de nos invités.
Parfait.
Pour arriver sur la fin de cet épisode, sur l'impact futur de notre quotidien, l'espace, qu'est-ce que ça va révolutionner? On a parlé un peu des télécommunications.
On a parlé de la machine à café.
La machine à café, c'est plutôt notre quotidien passé.
Alors, mais...
parce que c'est déjà déployé. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va aujourd'hui changer notre vie venant de l'espace?
Eh bien...
autre que le vin made in space.
Eh bien, en fait, peut-être que notre façon de nous habiller va complètement évoluer. Alors aujourd'hui... On voit beaucoup l'apparition de la basket, mais demain tu auras des textiles techniques qui vont peut-être changer nos modes de fonctionnement, des choses qui seront très résistantes, qui seront plus écologiques, qui seront plus saines. En matière d'optique également, en matière de santé et de, par exemple, la vision, tout simplement, on arrive à régénérer des couches oculaires. Il se passe plein de choses très intéressantes. Donc, je pense que en matière de médecine et en matière d'éco-conception de produits, projets qui vont nous entourer, et en matière de communication également, on va faire des progrès considérables, quoi.
Trop bien. Est-ce que Paul, il te reste des sujets que tu vois, on commence à faire le tour?
Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être, je sais pas, sur les micro-lanceurs, tu voulais nous rajouter quelques éléments, peut-être, pour nous expliquer un peu plus.
Alors, les micro-lanceurs.
L'avantage de ça.
Voilà, les micro-lanceurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans la recréation de l'industrie française. Tous ces grands programmes nécessitent, en fait, un lanceur. Comme je vous l'ai dit, c'est un moteur. C'est des réservoirs et puis c'est de l'intelligence parce que c'est de l'électronique embarquée. Donc quelque part conceptuellement c'est simple, en fait c'est très compliqué à imaginer, à mettre au point et surtout à sécuriser. Et donc pour faire tout ça, il faut des ingénieurs extrêmement compétents et plus on miniaturise, plus c'est difficile. Et plus on miniaturise, plus on découvre, plus on fait avancer la technologie. Donc vraiment on est sur la Formule 1, on va dire du lanceur. Et donc, qui peut le plus, peut le moins. Et je pense que derrière, on aura des tas d'autres activités en ingénierie qui vont nous permettre d'être performants et qui vont permettre, on va dire, à l'équipe France d'être encore plus performante. Parce que, comme on a toujours un peu moins de moyens que les Américains, il faut qu'on ait plus d'idées, qu'on soit plus créatif et donc qu'on soit plus ingénieux qu'eux.
Vincent, avant de partir sur notre conclusion et nos quelques petites questions qu'on pose à tous nos invités, est-ce qu'il y a un grand sujet que tu aimerais aborder et qu'on n'a pas abordé avant de finir cet épisode ?
Lié au spatial ?
Au spatial ou autre ?
Eh bien, moi, je pense que le transport est un très, très grand sujet. Aujourd'hui, on est sur des véhicules qui empruntent des routes. Et je ne sais plus si vous visionnez le film de Luc Besson, mais demain on aura peut-être des mini navettes.
J'ai justement une question là-dessus pour toi.
Et je pense que c'est bientôt à notre portée. Vous avez vu qu'un autre segment de marché, ce sont les VTOL, hein, vertical and takeoff landing, les hélicoptères décollage vertical. Eh bien, on peut totalement imaginer que demain on ait une petite Citroën Ami ou une petite Renault. Avec un décollage vertical, avec une propulsion nucléaire sécurisée, qui fait que le transport terrestre soit un peu beaucoup amélioré en fait.
Ok, et durant les JO, je sais que Tony Estanguet et son équipe ont parlé du fait de pouvoir rallier les aéroports de Paris, donc Charles de Gaulle et Orly, au centre de Paris par le ciel. Est-ce que on va vraiment y être ? Est-ce que là-dessus, toi, t'as de l'actualité ? J'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Ça va arriver ? C'est dans un an, là, ça arrive vite.
Alors, je pense que ça va être trop tôt, parce que en fait, tu as l'aviation civile en France décide de la réglementation, et aujourd'hui, tu n'as pas le droit de survoler Paris lorsque tu es un hélicoptère monoturbine. C'est-à-dire que pour être au-dessus de Paris, il faut avoir deux moteurs. Pour un hélicoptère carboné, hein. Et en plus, tu ne peux survoler que le périphérique ou la Seine. Et donc, je n'imagine pas une seconde des hélicoptères survolant la Seine avec des milliers de personnes pour l'inauguration, parce que vraiment, c'est vraiment prendre trop de risques. Il faut penser aussi aux risques terroristes, hein, et un hélicoptère est une cible facile. Donc les hélicoptères électriques, on est encore loin d'avoir la réglementation, les autorisations nécessaires. Alors de point à point, d'un aéroport à un aéroport, en passant par la campagne, certainement. Je pense que sur des liaisons Nice-Monaco, où tu survoles la mer, ça pose pas de problème, mais passer au-dessus des habitations, pour le moment, c'est encore une très très grosse difficulté. Il faudra vraiment convaincre technologiquement de la sécurité de tous ces systèmes.
Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Francky Zapata.
Oui.
Nous, on l'a eu sur ce podcast durant Vivatech. Et il nous disait que lui, il ne déploierait pas son engin volant, parce que ça n'a pas vraiment de nom, mais bon, ça permet de décoller sur place. Mais
il a fait une excellente démonstration au défilé du 14 juillet, je crois, il y a 2 ans. Hein.
Il était vraiment avec un jetpack au défilé du 14 juillet. Là, il a un nouvel appareil qui décolle à base avec des hélices et qui permet de transporter des gens. Et en fait, il me disait, je le déploierais aux US, mais pas en France, parce que la réglementation française est beaucoup trop compliquée et me permet pas de le faire sans avoir des moyens considérable qu'aujourd'hui il n'a pas et qu'il n'a pas forcément envie d'avoir en s'adossant à un énorme industriel.
Voilà, donc c'est effectivement une limite, mais je pense qu'on sera en mesure de dépasser ces limites dès que la technologie aura évolué, que les batteries seront plus légères, seront plus lourdes et qu'on aura des équipements de sécurité redondants.
Et donc la mobilité de demain, elle ressemblera à quoi ?
La mobilité de demain, je pense qu'on aura des vélos à propulsion nucléaire.
C'est une blague ou... T'y crois vraiment ?
Ah mais on a déjà des vélos à hydrogène, donc bien sûr.
T'y crois à l'hydrogène pour la mobilité douce ou pas ?
Alors, l'hydrogène c'est compliqué. Hein. Dans le spatial, l'hydrogène ça fuit de partout, c'est très complexe, c'est vraiment se poser des contraintes très 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 fortes. Oui, mais on va y arriver, certainement. On a utilisé des premières voitures à hydrogène il y a 15 ans, et il fallait embarquer quasiment une machine à laver dans le coffre parce que il fallait que le réservoir soit absolument blindé, sécurisé, donc tu n'avais plus de place quasiment pour les bagages ou les passagers. Mais la miniaturisation vous avez vos smartphones, hein, jadis, les téléphones, c'était comme des grosses machines. La miniaturisation, les mini-fusées, c'est vraiment un mouvement technologique et c'est ce qui va nous permettre de résoudre un grand nombre de problèmes techniques.
On creusera ce sujet sur un autre épisode.
On reviendra bientôt.
Du coup, pour conclure cet épisode, Vincent, est-ce qu'il y a des grandes questions, justement, sociétales, philosophiques, que tu te poses ou pas du tout?
La grande question, c'est en fait, c'est l'adhésion des populations. On ne fait rien dans un pays sans une acceptation sociétale. Et on voit bien qu'on est dans des grandes transformations. Par exemple, j'ai vu ce matin que l'Irlande allait supprimer 300 000 bovins pour être écologiquement, environnementalement compatible. Donc on est dans des vraies transformations. On doit changer de modèle. Je pense que le spatial va nous aider à changer de modèle, en tout cas nous éclaire. Et on est typiquement dans la philosophie des Lumières, qui est d'éclairer l'individu sur ce qu'il peut faire, avec quels moyens, le rendre plus intelligent, plus éduqué. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un outil au service du progrès humain.
Comment tu suis l'actualité, mais comment tu continues à t'informer au quotidien sur les sujets spatiaux, mais aussi d'autres sujets?
Alors, on a des excellents journalistes en France et dans le monde.
Donc, tu suis l'actu,
alors,
journalistique.
Bien sûr. Alors, par exemple, tu vois, on a Air et Cosmos, qui est un... Voilà. Mais aujourd'hui, tu as... cette activité spatiale est tellement rapide que tu as aujourd'hui d'excellents podcasts, d'excellents blogs, d'excellents journalistes indépendants qui sont très, très mobiles, qui ne dépendent pas d'une maison avec une rédaction et qui sont capables très rapidement... De renvoyer toute l'information. Donc, on suit l'actualité, effectivement, online. Quoi.
Ok. Et t'aurais des livres à recommander, des articles, je sais pas, ou pas forcément?
Alors, tu as une revue, là, qui vient d'émettre son deuxième numéro, qui s'appelle Space International. Et donc, qui est fait par des Français, je crois, dont l'équipe est à Aix-en-Provence. C'est vraiment une très très bonne revue, très très documentée, très imagée, qui explique vraiment dans la pédagogie, très poussée d'ailleurs, du secteur, oui, absolument.
Trop bien. Est-ce que tu aurais des sujets que tu aimerais voir abordés sur ce podcast? Qui peuvent ne rien avoir à voir avec le spatial?
Moi, je pense que le sujet de la mobilité de demain est un vrai sujet, parce que aujourd'hui, tu as une concentration des habitants dans les grandes villes, tu as les campagnes qui se dépeuplent, et une mobilité plus intégrée, plus douce, qui préserve plus l'environnement, à mon sens, c'est une capacité à reconquérir ces territoires et à multiplier le bien-être des individus, quoi.
Et est-ce que tu aurais des personnes à nous recommander pour ce podcast qui sont sur la mobilité de demain, le spatial ou encore d'autres sujets?
Alors, je vous recommande la députée Cécile Rilhac, qui a pris en charge le groupe de travail de l'Assemblée nationale sur le spatial. Et en fait, il n'existe plus depuis une dizaine d'années de politique spatiale nationale. On a une politique de défense en matière de spatial. On a le CNES qui accouche de très nombreux programmes. Mais l'idée, c'est de faire adhérer toute une population sur une ambition nationale. Et tout ce que l'on a évoqué aujourd'hui, la place de la France, la place des acteurs étrangers, préparer l'avenir, c'est avoir une grande ambition spatiale pour nos ingénieurs, pour notre population, pour nos scientifiques, pour nos agriculteurs, pour nos médecins. Et voilà, donc Cécile Rilhac est en train de construire cette politique spatiale avec beaucoup d'énergie. C'est un professeur. Et donc, je vous recommande très vivement de la rencontrer très prochainement.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci
à tous.
Merci à vous. Parfait pour cette émission. C'est absolument passionnant. Bravo pour tout ce que vous faites. Et vive les lumières, les gens éclairés.
Merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, j'en profite. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et à très vite.
À la semaine prochaine pour un futur épisode.
À bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.